Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 2014 et 2015, deux synodes sur la famille sont convoqués par le pape François. Les objectifs de l'Église sont publiés dans les rapports d'étape au fil des mois et dans le discours de clôture du pape. On peut lire ainsi, je cite, « Les personnes homosexuelles ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. » Un rapport d'étape se demande toutefois si la dite communauté est vraiment prête et en mesure d'accueillir ces personnes en leur garantissant un espace de fraternité. Lors du synode de 2014, un évêque hongrois va même plus loin en esquissant une reconnaissance des unions de personnes de même sexe et des enfants qu'elles ne peuvent élever. Les divorcés civilement remariés, qui souffrent également de leur mise à l'écart de l'Église, pourraient aussi voir leur place changer au sein de la dite Église. En 2015, changement de ton. Les évêques d'Afrique, soutenus par une partie de l'épiscopat américain et d'Europe de l'Est, se concertent pour peser sur les discussions et bloquer celles qui ont trait à l'homosexualité. Le réalisme et la prudence sont de retour. Certains signes pourtant montrent que le pape va dans une direction toujours encourageante, plus ouverte, comme l'accompagnement au cas par cas des divorcés remariés par un évêque. Et même sur la question de l'homosexualité, on apprend en juin 2018 que le sigle LGBT avait été utilisé pour la première fois par l'Église catholique dans un document de travail, une petite révolution au Vatican. À l'annonce de telles ouvertures, le mouvement de débaptisation qui court à travers l'Europe depuis quelques années pourrait peut-être connaître un ralentissement. Il n'existe pas de véritables statistiques là-dessus, mais lefaitreligieux.com, un site internet spécialisé, a procédé à un décompte minutieux, en Italie notamment. En 2009, environ 15 000 personnes avaient demandé officiellement à être débaptisées. De 2009 à 2012, elles étaient plus de 5 000. D'après la Croix, en France, il serait un bon millier chaque année à faire des demandes auprès de leur diocèse en vue d'être débaptisés. Ce qui les pousse, ce qui les entraîne à faire ce geste et ce que ça leur coûte, c'est l'objet de ce pied sur terre quartier d'été, leur chemin de croix. C'est évidemment une histoire racontée par Leïla Djitli. Elle a été diffusée pour la première fois le 16 octobre 2014.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Nathalie, j'ai 43 ans, je suis mère célibataire de deux enfants, je suis responsable administrative dans une entreprise, j'ai un blog personnel, Heaven Can Wait. Et j'ai écrit une lettre qui s'appelle « De guerre lasse, quitter l'Église catholique », publiée le 20 avril 2013. Le matin, ou en tout cas dans la journée, j'ai demandé à mon père mon acte de baptême. Je n'avais peut-être pas pris la décision définitivement, mais en tout cas, je m'en approchais dangereusement. Et ensuite, j'ai recherché sur Internet la formulation exacte pour demander ma débaptisation, pour être sûre de ne pas commettre d'erreur et de ne le faire qu'une fois et que ça soit efficace. Ça m'a travaillé toute la journée, je pense. Enfin, ça a mijoté, si j'ose dire. Et puis, une fois rentrée chez moi, j'ai commencé à écrire parce que c'était important, parce que ça débordait de partout. J'avais accumulé tellement pendant des mois d'horreur. Je pense que j'ai dû démarrer vers 7-8 heures du soir. Les enfants ont dû manger des pâtes. J'ai écrit cette lettre. Après, j'avais l'esprit très clair. Et je l'ai publié, cette lettre de débaptisation, sur mon blog le lendemain matin. Ceci est la lettre que j'ai préparée et que je vais envoyer lundi avec accusé de réception, on ne sait jamais, au diocèse de Lyon où j'ai été baptisée. Monsieur le curé, monsieur l'évêque, ayant été baptisé en l'église Saint-Bip en avril, Bip, sous le nom de Bip, je vous serai reconnaissante de bien vouloir porter sur le registre de baptême et en regard de mon nom la mention suivante, à renier son baptême par lettre datée du 20 avril 2013. Ne croyez pas que j'ai pris cette décision à la légère. Je suis croyante et je me suis longtemps considérée comme catholique. Mais avec le conflit qui règne autour du mariage pour tous, il ne m'est plus possible de continuer à l'être. Rester, c'est cautionner et il en est hors de question. Le comportement de la hiérarchie de l'Église et de certaines de ses ouailles en France est inadmissible. Prenez la guerre civile ou le sang au nom de la foi et ce, avec l'approbation des évêques ou leur compréhension, est une honte. Le débat violent qui agite mon pays achève les doutes que j'avais depuis quelques années. Mon apostasie n'est pas un acte religieux, c'est un acte politique. Votre Église ne me laisse aucun autre choix pour manifester mon désaccord officiellement et ce, de manière forte. La religion n'a pas à rentrer dans le terrain politique et pourtant, c'est ce que vous faites. Personne n'oblige l'Église catholique à célébrer des mariages autres que hétérosexuels et pourtant, vous combattez au nom du mariage civil. Ce n'est pas votre champ d'action, nous vivons dans une république laïque, Dieu merci. Par conséquent, j'utilise l'apostasie comme moyen d'action politique puisque vous vous aventurez sur ce terrain-là. Là où la politique suppose la vérification par les faits, vous vous attachez aux faits, à un comportement. Ne croyez pas que je n'ai pas eu peur de cette décision. Bien sûr que j'ai eu peur. Des mois de discussions intérieures, des doutes et des questions, des allers-retours. Renoncer à me faire enterrer de manière chrétienne est un très grand renoncement. Abandonner la route spirituelle que mes parents, dont ma mère décédée, avaient tracée pour moi est terrible. Mais qu'avez-vous fait de cette église? Qu'avez-vous abandonné? À quoi avez-vous renoncé pour avoir du pouvoir sur la vie civile? Croyez-vous vraiment qu'un homosexuel qui se sera marié, aura eu des enfants et aura eu à cœur de prendre soin de son prochain sera renié par Dieu? Croyez-vous vraiment qu'une personne qui sera allée à l'église tous les dimanches et aura respecté toutes les règles concrètes, mais aura semé la destruction autour d'elle, sera accueillie à bras ouverts par Dieu? La question de l'âme n'est pas affaire de sexualité, ce sont les hommes qui s'en sont mêlés. C'est une longue et douloureuse discussion avec Dieu que j'ai depuis quelques mois, mais je suis convaincue qu'il saura, quand mon âme et conscience, que « aimez-vous les uns les autres » a probablement plus de sens pour moi que bien des catholiques qui traitent Madame Taubira de « rat ». Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est ce que je fais par le biais de cette lettre, ne vous en déplaise. Il est partout et par conséquent au sein de ma conscience. Je serai donc dorénavant une croyante indépendante, si j'ose dire. Je tâcherai de respecter ce en quoi je crois. Seule, mais convaincue. Je renouvelle donc ma demande effectuée en début de lettre. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir porter sur le registre de baptême et, en regard de mon nom, la mention suivante a renié son baptême par lettre datée du 20 avril 2013. Notez que légalement l'Église ne peut me refuser une requête en débaptisation et qu'elle doit, au titre de la loi informatique et liberté concernant les fichiers, même manuscrits, me fournir à titre gracieux une copie de l'acte modifié. J'espère donc que vous ferez preuve de diligence et que vous ne m'obligerez pas à demander à la CNIL ou à un tribunal de faire respecter mes droits. Dans l'attente d'une confirmation écrite, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués, fait à Paris le 20 avril 2013.
Vous dites...
Oui, je suis un peu secouée à la relisant. C'est toujours fort. Alors, je l'ai envoyé avec accusé de réception à l'évêché et à l'église. Le premier accusé de réception, c'était très drôle, m'a été renvoyé en m'expliquant que l'église, enfin, qu'il y avait inconnu à cette adresse. Donc, ça m'a quand même fait un peu ricaner qu'une église ait disparu. J'ai failli lancer un avis de recherche. Mais peut-être un mois et demi après, j'ai reçu une copie de mon acte de baptême, où comme dans le registre civil, il y a des mentions divorcées, mariées sur les côtés, eh bien moi j'ai ma mention à renier son baptême par lettre du 20 avril 2013 à côté de mon acte de baptême. Parce que si jamais, rêvant un peu, quelqu'un parcourt ce registre, eh bien il trouvera trace de ma démarche. Alors, quand j'ai reçu ce courrier attestant ma débaptisation officiellement, j'étais satisfaite parce que j'avais obtenu ce que je voulais. Et en même temps, ça y est, j'étais sortie définitivement de l'Église catholique. Donc, ce n'était pas une explosion de joie, loin de là. Parce que ça reste quand même quelque chose de douloureux. Avec lequel je suis intranquille, pas du tout parce que j'ai pris cette décision, mais par exemple, je sais que lorsque je vais mourir, je n'aurai pas droit à un enterrement catholique. Et ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine, mais cet acte politique, en tout cas cet acte que je considère comme politique, était plus important que les conséquences. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour exprimer notre désaccord vis-à-vis de l'institution? Il n'y en a aucun. Enfin, je ne vais pas aller m'amuser à détruire une église. On ne va pas organiser des manifestations devant une église. Je trouvais ça assez irrespectueux, au même titre que certains catholiques qui s'amusent à manifester devant des hôpitaux parce qu'ils pratiquent des actes qui ne leur conviennent pas. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise s'il y a un autre moyen, mais je ne vois que celui-là, la débaptisation.
Et vous allez prier quand même, ou qu'est-ce que vous...
Alors ça, c'est une grande question auquel je n'ai pas de réponse, parce que aller dans une église à présent, j'y suis retournée, mais je ne suis pas à l'aise.
Vous avez quand même gardé quelque chose de cet héritage religieux.
Bien sûr. Mais ceci étant, je pense que je suis catholique parce que née, élevée dans un environnement catholique. Oui, bah, j'y tiens, et en même temps, enfin, c'est pas par hasard, je ne l'ai pas encore dit à mon père. Il a beaucoup de mal avec le fait que mes enfants ne soient pas baptisés, même s'il respecte hein, cette décision. Mais alors que moi, je rejette l'Église catholique, je suis d'origine italienne, on rigole pas avec ça, hein. Oui, oui. Avec une grand-mère qui était très croyante, et des vierges fluorescentes dans leur appartement qui me faisaient flipper comme une bête. Je me disais, elle va s'en prendre à moi, il va se passer quelque chose, c'est horrible. Est-ce qu'il vivrait ça comme une trahison? Je ne sais pas. En tout cas, le mot trahison a été employé par pas mal de gens que j'ai pu croiser avec les réactions sur cette lettre. Oui, probablement, c'est de l'ordre de la trahison. Je ne veux surtout pas faire de la peine à mon père. Il a 82 ans. Il mérite de vivre en paix. Alors, certaines personnes vont peut-être considérer que c'est faux cul de ma part. Peut-être. Est-ce que c'est plus confortable pour moi? Certainement. Mais je crois quand même que j'ai vraiment, vraiment pas envie de lui faire de la peine. Et que je crois que c'est une conversation inutile en plus. Je suis pas sûre que ça nous fera avancer ni l'un ni l'autre. La publication de la lettre, mais ça a duré des jours et des jours quand même après. De gens qui voulaient se renseigner, de gens qui voulaient en discuter, de gens qui m'insultaient, etc. Ça a été une période quand même, ça secouait, c'est extrêmement chronophage quand même, émotionnellement très fort évidemment.
Vous n'attendiez pas une telle réaction?
Non, je ne pensais pas que ça circulerait autant. J'ai été un peu dépassée. J'ai détesté qu'on essaye de me disqualifier par l'infantilisation, à savoir que je faisais ma crise d'ado. Oh, ça, je crois que c'est le truc qui m'a le plus énervé, plus que les insultes en m'expliquant que j'allais finir en enfer. Mais alors, le côté, elle fait sa crise d'ado, c'est pas une vraie catholique, on s'en fout. Oh, ça m'a mise dans une colère noire. Parce que sur les réseaux sociaux, en plus, ça arrive de toutes parts. Il y avait les commentaires sur le blog. Il fallait que j'autorise certains, que j'en interdise d'autres. Des réactions sur Twitter, des gens qui parlaient de moi sans me mentionner, qui disaient des horreurs.
Quel genre d'horreur?
Oh, je sais pas. Oh, j'en ai gardé quelques-uns. Ah oui, cette histoire de mariage sodomite aura au moins le mérite de séparer le bon grain de l'ivraie. Merci. Bon vent en compagnie des impies et des satanistes. Ok, sympa. Bien indigne de l'Église. Sodome et Gomorre, ça vous dit quelque chose? Qui en a prononcé la destruction? N'est-ce pas Dieu? Jésus n'est-il pas Dieu? Et hop. N'est-ce donc pas lui qui a détruit Sodome et Gomorre? Dieu est homophobe, les homos vont en enfer. La nature est homophobe. Enfin, j'ai eu droit à des trucs d'une violence. Mais comment peut-on se réclamer de l'Église catholique et faire preuve d'une violence pareille? Je ne comprends pas. Je reste démunie face à ça.
Mais à la suite de la publication sur votre blog de ce courrier, vous avez eu combien de commentaires?
On prend 2 minutes pour faire Google Analytics. se connecter. Alors, Evan Canway, les années jeux. De Gerlas quitter l'église catholique, apparemment, ça a été lu par 8716 personnes. Pas mal. La gloire. À quel frais, mon Dieu.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis né le 12 septembre 1947. J'ai été baptisé le 9 novembre 1947. C'est-à-dire, j'ai pas eu le temps de faire un souffle, que déjà j'étais baptisé et devenu chrétien. À 2 mois, j'ai été baptisé et à 60 ans, je me suis retrouvé débaptisé, suivant ma volonté. Quand j'ai demandé ma débaptisation, bon, il y a toute une antériorité aussi, il y a tout un cheminement avant de faire cette démarche qui m'a été assez douloureuse parce que j'ai une maman qui est très pieuse et non pas grenouille de bénitier, je la crois sincèrement pieuse et je savais que j'allais lui faire beaucoup de peine si jamais elle l'apprenait. Là commencent les ennuis. Ma chère maman assure des fois le secrétariat téléphonique du curé quand il est en vacances. En juillet 2009, ce qui me semble logique comme date, le curé était en vacances, donc ma mère prenait les appels téléphoniques pour les enterrements, etc., voire de l'évêché. Et un jour, elle reçoit un coup de fil de l'évêché qui dit « Je vous appelle, madame, pour que vous fassiez la commission à monsieur le curé de ne pas ouvrir sa porte à un monsieur Didier Guénan » qui vient s'assurer qu'il a bien été effacé dans le registre des baptêmes et en aucun cas de lui montrer ce registre. Maman débarque complètement. Je lui rends visite régulièrement. C'est une vieille dame. Et on est arrivé avec mon épouse le matin même où elle avait reçu cette information. On était tous liquéfiés. C'était horreur parce que j'avais demandé précisément toute la discrétion à l'évêque et tout. J'avais l'impression d'une grande trahison. Sans doute une maladresse, c'est ce que me disent mes amis maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu de la malignité, de la volonté de faire exprès ou pas. Je ne crois pas. Toujours est-il que le mal était fait. Et là, c'est pas la violence, mais alors, ça m'a libéré. Ça voulait se faire dans l'anonymat complet, cette chose-là. Et c'est devenu public, parce que tout de suite, j'ai appelé le journal local, La Charente Libre. Il y a eu 2 articles dans le Sud-Ouest et dans La Charente Libre. Ipso facto. Et à partir de là, justement, ça a déclenché une certaine révolte de ma part vis-à-vis de l'évêque, du curé, pour cette maladresse, puisque ma mère... Quand ma mère l'a su, c'est comme si c'était un aveu public, sur la place publique. Donc moi, ça m'est égal. Après, moi, j'habite pas dans la Charente, peu importe. Donc j'ai ouvert ça à la presse, pour en faire parler, et surtout que d'autres, ce qui est le cas, emboîtent le pas derrière moi, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut être débaptisé. Donc j'ai l'immense honneur d'avoir été le parrain de plusieurs débaptisés. C'est un long parcours, hein, parce que bon, j'ai fait des études... qui m'ont progressivement éloigné de... Je me sentais plus du tout croyant, du tout. Sous la suggestion de ma mère, une fois, ça c'est une anecdote, mais que je garderai longtemps, bon, j'ai fait les beaux-arts, et un jour, le curé a demandé à ma mère que je fasse la crèche de Noël. J'avais, à ce moment-là, j'avais 20 ans. Je m'y suis soumis, et j'ai fait une crèche de Noël assez symbolique, pas du tout violente, assez subjective sur la misère humaine et la violence humaine également, avec tous les symboles religieux qu'il pouvait y avoir. Je crois avoir fait un travail assez sympa. Le lendemain, cette crèche a été saccagée dans l'église. J'ai refait, parce que je suis un têtu, cette crèche. Une fois, deux fois. Là, j'ai abandonné. Elle a été saccagée systématiquement parce que n'apparaissaient Joseph et la Vierge qu'en silhouette. Les paroissiens voulaient voir tout simplement des santons de Provence ou d'autres, voire une crèche vivante, mais ils perdaient tous leurs repères. Ça a été déjà un premier choc, ça. Parce que je me suis dit, bon sang, dans un lieu comme ça, qui prône la paix, l'amour, et j'ai redécouvert que effectivement ces religions-là, comme les trois religions monothéistes, sont violentes, peuvent arriver à l'excès si on les contrarie. Ça m'a choqué parce que ça ne correspondait pas du tout au profil et à l'idéal que je faisais aussi à travers ma mère, qui était pour moi la personne parfaitement honnête, pratiquement trahie dans ce moment-là justement, puisqu'elle m'avait demandé de faire ça, ça lui avait fait de la peine, bien évidemment. C'est là aussi que j'ai pris conscience de ce parasite que peuvent être les religions dans certains cas, je pense à ma mère en l'occurrence, issue d'une famille très croyante, ils voyaient le bon Dieu partout, les morts leur parlaient, c'est extraordinaire. Il y a une grande partie de son cerveau qui est squattée par cette chose-là qui a été répétée depuis la tendre enfance, annonnée au début, répétée sciemment ensuite et avec conviction, et toujours, toujours la même litanie, quoi, si vous voulez, même litanie. Et mon père, un peu moins, mais l'était aussi. Mon père, malheureusement, décédé maintenant, mais l'accompagnait volontiers. Mais elle était assez meneuse sur ce sujet. Mon deuxième choc a été, j'ai une amie que j'aimais beaucoup, qui a été victime d'un cancer, mais foudroyant. C'est une amie très proche de la famille et... Un jour, ma maman, avec toute sa bonne foi, on va dire ça pour de bon, a pensé utile de venir lui rendre visite alors qu'elle était en phase finale de ce cancer, de venir avec le curé de sa paroisse. Et le lendemain, je vais voir cette amie qui n'avait pas conscience qu'elle était déjà habitée par la mort, presque, à la limite, sur le fil, qui m'a dit, tu sais, Didier, je... crois bien que ta maman est venue avec monsieur le curé pour me donner l'extrême onction. Cette seule présence religieuse lui a fait envisager sa fin, et d'une façon très brutale. Et là, je suis rentré dans une colère furieuse vis-à-vis de ma mère, que je regrette toujours, parce que ma pauvre femme, elle pensait bien faire, mais en la ramenant, parce que c'était Angoulême, on habitait ailleurs, nous un petit à 30 km en amont, et en la ramenant dans la voiture, je lui ai dit « Maman, pourquoi t'es-tu autorisé cette liberté ? Décidément, tu m'as baptisé alors que je n'avais aucune conscience ni liberté de penser pour pouvoir faire le choix de ma religion ou pas. Et t'es toujours avec des gens en position de faiblesse et t'attends la mort pour faire venir un représentant de la foi qui est la tienne, en l'occurrence, monsieur le curé. Et ça, j'aime pas. Parce que là, c'est les moments où on maîtrise le moins sa conscience et sa pensée. On est faible, on est fragile, et des fois on peut le recevoir très bien ou très mal. Là, ça a été très mal. Et je me suis posé la question.
Je vous sens très ému.
Très, parce que je sentais que je faisais du mal à ma mère. C'était pas le but. Je voulais simplement dire une vérité qui, d'un seul coup, a pris corps et a explosé. Alors, après cette friction avec ma mère, je me suis un petit peu plus penché sur le problème de la religion et des religions. Et puis j'ai appris qu'on pouvait se faire débaptiser en allant sur le net, tout ça. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient décidé de quitter cette contrainte et cette liberté qu'on leur avait imposée. Et j'ai décidé de faire cette démarche en écrivant non pas au curé de la paroisse, mais à l'évêque d'Angoulême, et que je demandais de bien vouloir me débaptiser. Ça voulait dire dans ma tête, et c'est là où j'ai pris conscience que c'était très important, disparaître de cet extrait de baptême, et on me raye, on m'efface, on fait ce qu'on veut, mais je disparais de l'extrait de baptême. Je suis pas un renégat, j'avais 2 mois, je ne la reniais pas, je n'en voulais plus tout simplement, et je ne l'avais pas accepté de toute façon initialement. Pour avoir été à la messe quand même très longtemps, jusqu'à ma préadolescence, dit toujours la même chose. Et je veux dire, ça fait 2000 ans qu'il se passe la même chose et que l'on croit quand même à des choses peu probables, c'est-à-dire une Sainte Vierge qui donne un enfant. Moi, je pense maintenant à la mère porteuse puisque c'est dans l'air du temps. Et un Jésus dont j'ai appris maintenant que les historiens en parle avec beaucoup de prudence parce qu'ils arrivent à ni à prouver son existence, pas plus que les archéologues. Donc ils n'ont que des documents qui s'égrènent sur 400 ans, faits par des apôtres qui seuls l'ont approché mais jamais décrit. Et on est très hypocrite. Moi j'ai fait baptiser mes enfants. Ils n'ont pas eu d'éducation religieuse, mais ils ont quand même eu un baptême. Pour le décorum, je me suis marié à l'église, excusez du peu, et après, bon, j'ai mené ma vie avec une indifférence totale par rapport à la religion. Bon, j'allais de temps en temps pour faire plaisir à la famille. Quand je rejoignais mon père et ma mère, il y avait inévitablement la messe de minuit, que je me soumettais, parce que finalement, c'est pas désagréable, mais j'y allais plus comme on va au spectacle que comme on va à la messe, c'est-à-dire 100 fois. Oui, alors, donc ma mère, maintenant au courant, on l'a apaisée. Mes enfants l'ont apaisée aussi. J'ai deux enfants, un garçon et une fille, qui ont dit, mais tu sais, mamie, papa a le droit, ça te vise pas toi personnellement, c'est sa liberté. Il reprend une liberté qu'il pense utile, donc il faut que tu le respectes, comme il respecte ta foi. Et petit à petit, elle a pris conscience que ça pouvait se faire, ça. Et en avançant dans mon cheminement, parce que j'ai des relations maintenant par Internet, c'est extraordinaire, j'ai beaucoup de correspondances avec des Canadiens, avec des Belges, avec des Allemands, avec des Italiens, beaucoup, avec des Espagnols. En fait, je me rends compte que c'est un phénomène qui n'est pas rare, finalement. Mais j'ai un site, effectivement, où j'ai pas mal de correspondants. Ils tapent sur Internet des baptisations et ils tombent sur moi. Donc, je veux dire, c'est pas difficile. La débaptisation a la même force, pour moi en tout cas, qu'un baptême pour d'autres. Parce que... Mais ça a été très très fort, cette demande, avec une vraie conviction, une vraie assurance de ma vérité. Pas celle des autres, mais évidemment, mais de ma vérité, de ma sensibilité. Et je suis rentré dans cette démarche-là comme d'autres trouvent la foi. Mais la démarche est proche. Et l'état d'esprit peut être presque aussi fort.
Pieds sur terre, quartier d'été, 5 émissions autour du thème Leur chemin de croix. C'était aujourd'hui Débaptisez-moi, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Thomas Jost avec un coup de main de Vanessa Nadjar. Ce reportage a été diffusé pour la première fois le 16 octobre 2014. You know, and they're trying to.